Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Bien, pour atteindre ses objectifs et réaliser sa mission, les ONG sont à la recherche de financement. Cependant, et certaines ont du mal à accéder au financement. La raison, la plupart de ces organisations ne sont pas efficaces sur le terrain. Alors, comment augmenter ses chances d'obtenir un financement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un financement? Alors, nous recevons aujourd'hui les représentants d'une organisation qui a fait ses preuves, qui a aujourd'hui 17 ans d'ailleurs. Cette ONG ADES vient de fêter le samedi dernier ses 17 ans d'existence. Alors, nous allons, les animateurs de cette structure vont sûrement partager leur expérience avec les autres. Nous avons ici Dr Mbakata Freddy, il est le directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Dr Freddy, encore une fois, bonjour.
Bonjour. Oui.
Et en passant, bon anniversaire.
Hein. Bien, merci beaucoup.
Alors, vous avez 17 ans d'existence aujourd'hui. Dites-nous, parlez-nous de votre expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir des financements, parce que vous êtes parmi les structures qui ont reçu beaucoup de financements pour réaliser des projets.
Bien, merci beaucoup. Avant de pouvoir prétendre à un financement, il faut exister d'abord sur le plan juridique, parce que une ONG, c'est une personnalité juridique que vous créez. Vous devez avoir vos statuts constitutifs bien rédigés, vous devez les faire légaliser, vous devez obtenir certaines autorisations de fisc provisoire si vous êtes en province, ou obtenir l'autorisation de votre commune, de votre mairie, du ministère des tutelles, si vous voulez travailler dans les domaines sociaux. Et puis, en fin de compte, le dernier document que vous devez avoir, c'est l'arrêté ministériel du ministère de la Justice qui va vous conférer la personnalité juridique. Alors, ayant créé toutes ces structures dont vous existez juridiquement,
oui.
À ce moment-là, vous pouvez prétendre avoir un financement. Vous devez définir vos objectifs. Dans quel domaine est-ce que vous voulez travailler? Très souvent, quand nous suivons votre émission, plusieurs ONG passent ici. Quand vous leur posez la question, qu'est-ce que vous faites? Les objectifs sont beaucoup plus nombreux. Mmh. Et quand vous leur posez la question de savoir où est-ce que vous trouvez le financement, vous voyez comment ça balbutie.
Oui, souvent on nous dit on n'a pas de financement, on n'a pas d'argent.
C'est l'une des grandes erreurs qu'on commet.
Oui.
Si vous venez de naître, vous êtes jeune. Les bailleurs de fonds recherchent des ONG qui ont une certaine expérience. Donc, après avoir existé juridiquement, vous devez bâtir votre expérience pour que cela vous serve de CV. À l'avenir, vous pouvez dire, nous avons de l'expertise dans tel domaine. Mais comment bâtir une expérience, vous qui venez de naître? Voilà, c'est ça la grande question. La stratégie est la suivante. Parmi vos membres constitutifs, si vous avez une personnalité de référence, je donne un exemple. Vous avez peut-être un ingénieur agronome parmi vos membres fondateurs.
Mmh.
Mais commencez à utiliser son expertise. Vous pouvez dire, non, voilà, nous, entre autres, nous allons d'abord faire, par exemple, un champ de manioc. Vous pouvez faire 10 hectares ou quoi. Vous pouvez apporter vos propres matériels ou bâches ou quoi là. Avec son expertise, vous cultivez. Vous avez le champ de manioc.
Mmh.
Avec ce champ qui a bien poussé, vous pouvez, en ce moment-là, attirer le bailleur de fonds. Vous pouvez dire, voilà ce que nous sommes capables de faire.
Donc, il faut commencer par quelque chose, faites quelque chose de vous-même,
avec vos propres fonds.
Oui.
Parce que quand vous dites à un bailleur de fonds, nous avons de l'expertise, nous sommes en train de faire ceci, venez voir, nous sommes au plateau de Bateke, nous venons de cultiver 10 hectares de maïs ou d'haricots ou de quoi. On vient, on regarde, on voit, on peut vous faire confiance, on dit bon voilà, avec leurs propres fonds, ils ont fait ceci, ils peuvent vous donner des fonds. En ce moment-là, quand vous avez des fonds, les premiers financements que vous obtenez, si petits soient-ils, il faut bien les gérer. Si le bailleur de fonds ne vous donne pas de salaire, s'il vous plaît, ne commencez pas à vous payer vous-même. Voilà. Donc, faites les objectifs, atteignez, faites bien votre travail, atteignez les objectifs comme vous êtes entendu avec le bailleur de fonds, et seulement après, quand vous allez rendre vos activités, demandez au bailleur de fonds qu'il vous donne une attestation de bonne fin de travaux. Si c'est un bâtiment que vous avez conçu, aussi petit puisse-t-il être, le jour où vous le remettez, obtenez un certificat. Comme ça, après avoir existé juridiquement, après avoir créé une petite expérience, par la suite, vous pouvez vous vendre vous-même. Vous passez par-ci, par-là, vous toquez un peu partout auprès des bailleurs de fonds. Oui. Voilà, nous existons. Voilà ce que nous avons déjà fait. Voilà l'attestation des travaux que nous avons
déjà réalisé.
À ce moment-là, vous devenez crédible. Vous faites confiance.
Alors, docteur Kapika, on parle souvent des ONG mallettes. Les bailleurs de fonds ont peur des ONG mallettes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça.
Mais tout à fait, parce que c'est là, ils n'ont aucun bureau, ils n'ont aucune référence, ils n'ont même pas de membres, et c'est eux seuls
qui constituent tout ça. Des documents, de l'État.
Oui, mais les documents, quand vous allez chercher des documents, vous n'allez pas avec votre assemblée générale, c'est vous seul qui allez chercher des documents, malheureusement. Donc nous, ce que nous conseillons, comme venait de le dire notre directeur général, c'est que toutes ces ONG doivent viser l'efficacité et être efficients. Ils doivent absolument savoir que quand ils font du travail, ils doivent viser d'abord le résultat. Et il y a un sacrifice à se faire avant même de se faire un nom. Ils doivent viser les résultats, c'est-à-dire les indicateurs objectivement vérifiables doivent être réels. Les résultats, on doit les voir. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle d'ailleurs, on parle même de l'efficience. C'est-à-dire, vous réalisez les résultats, d'accord, mais il faut que ces résultats-là soient réalisés dans un temps record, avec un coût réduit et le travail avec une bonne qualité. Donc c'est ça qu'on vise actuellement. Donc les ONG doivent savoir que vous pouvez travailler, vous avez le résultat. Mais si pour réaliser une œuvre qui devait prendre 2 mois, 3 mois, vous vous mettez une année, même si vous venez, vous dites que vous avez l'expérience, les gens vont dire non, ça on pouvait réaliser ça en 1 mois, en 2 mois, 3 mois. Oui. Donc il faut que cela soit aussi pris en compte. Donc moi je pense que pour ne pas être inondé de mallettes, il faut d'abord se faire des sacrifices soi-même et réaliser quelque chose et après seulement...
L'efficience
et l'efficacité.
Alors vous êtes chef de projet à ADES. Durant ces 17 ans, vous fêtez votre 17e anniversaire. Combien de projets vous avez déjà eu à réaliser?
Ouf! Nous avons un fleuve de projets que nous avons réalisés. Et je peux vous dire que depuis notre naissance jusqu'à ce jour, chaque année, nous avons au moins 2 bailleurs de fonds ou 3 avec lesquels nous réalisons des projets. Chaque année. Donc, il me sera très difficile ici d'énumérer projet par projet, mais notre liste est générale.
Quelques projets à faire avant de donner la parole au directeur général.
Oui, nous avons réalisé la prise en charge plusieurs fois de réfugiés. Nous avons réalisé des constructions, des écoles, des maternités. Nous avons réalisé des projets de paiement, et nous le faisons encore, de paiement de cash. On s'est occupé des rapatriements, on paye de cash à ceux qui sont rapatriés. Nous faisons de la réintégration, on construit des abris, nous distribuons des kits de construction. Donc
il y a beaucoup de projets. Docteur Freddy Mbakata.
On sait que je peux dire, nous sommes beaucoup plus expérimentés dans la gestion multisectorielle des camps de réfugiés. Je vous dirais par exemple que du côté de Aru, Biringi, Aba, Dungu et Doruma, entre 1999 et 1999 à 2002, nous avons géré des camps de réfugiés soudanais, dans plusieurs domaines, médical et nutritionnel, dans les domaines des infrastructures, dans les domaines agricoles, l'éducation. Nous avons conçu des écoles en primaire tout comme en secondaire qu'on gérait. En fait, ce sont des grands camps de plus de 40-45 000 personnes. Donc nous sommes expérimentés en cela. Nous avons géré aussi de 2002 en 2004 à Molé, à Zongo, des camps de réfugiés centrafricains, déjà à l'époque. C'était une gestion multisectorielle aussi, comme je viens de le dire. Mmh. Actuellement, nous gérons aussi des camps de réfugiés centrafricains basés à Zongo, à Molé, donc au camp de Molé, basés à Guadolite, au camp de Inke, basés à Libengue, au camp de Boyambo, ainsi qu'en province orientale à Ango. Nous avons construit des maternités et des centres de santé. À côté de Bounia, si vous allez à Dzumbe, Mandro, Ruampara, vous trouvez des maternités qui ont été construites par notre ONG. Nous construisons des écoles, plusieurs écoles. Si vous allez du côté de Bounia, plusieurs écoles, non, du côté de Bounia, oui, nous avons construit plusieurs écoles, écoles primaires, de 6 salles de classe avec bureaux, avec latrine, douche pour les élèves. Mmh. Nous sommes dans un très grand partenariat avec le PAM, où nous distribuons les vivres PAM aux réfugiés, aux déplacés, tout comme nous gérons du côté de Bounia plus de 500 écoles primaires dans lesquelles nous faisons des cantines scolaires. Donc nos réalisations sont innombrables à 17 ans d'existence. Mmh. Comme a dit le chef du projet, on ne peut vraiment pas les citer.
On peut pas les citer, oui.
Et chaque année, nous sommes financés par deux ou trois bailleurs de fonds. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous ne recherchons plus le financement.
Mais les financements commencent à venir.
Oui, nous sommes dans des pipelines de grands bailleurs de fonds, surtout des systèmes de Nations Unies. On nous appelle par le HCR, ADS, est-ce que vous pouvez faire ceci, le PAM, l'UNICEF ou quoi, est-ce que vous pouvez faire ceci, compte tenu de notre expérience. Voilà ce que je veux dire.
Comment une ONG peut augmenter ses chances d'obtenir des financements? Nous recevons aujourd'hui Dr. Freddy Mbakata, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADES. Il n'est pas seul, il est avec le Dr. Kapika Augustin, chef de projet à ADES.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Comment une structure, une ONG peut augmenter les chances d'obtenir les financements? Docteur Freddy, vous avez dit d'abord il faut avoir les documents administratifs, définir ses objectifs, faire quelque chose avec ses propres fonds, obtenir une attestation de bonne fin d'exécution du projet, et puis docteur Kapika a dit tout à l'heure il faut être efficient, il faut être efficace. Est-ce qu'il y a d'autres critères auxquels il faut répondre pour espérer obtenir un financement?
Oui, il faut avoir aussi une bonne gestion, parce que le financement c'est le fonds vous les donne, mais vous les remettez entre les mains de qui? Comment vous allez gérer? Il faut avoir une très 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 bonne comptabilité et à la fin de l'exécution du projet, si le projet lui-même ne prévoit pas un audit interne ou externe, faites-vous auditer vous-même par des grandes maisons d'audit qui existent. On ne va pas les citer ici pour ne pas faire leur publicité, mais si vous obtenez un certificat d'audit d'une des maisons bien connues.
Mais souvent, on parle d'auditeurs internes, externes.
Bon, l'interne, c'est-à-dire c'est votre structure. Parmi vous, à l'intérieur de votre ONG, il y a quelqu'un qui est spécialisé et qui contrôle les finances sur le terrain, comment vous effectuez. Je vous donne un exemple. Vous êtes ici, vous envoyez 10 000 dollars en Bandaka pour faire une activité bien précise. Mm-hmm. Mais il faudra qu'il y ait un suivi. Après un mois, deux mois, il faudra que quelqu'un parte sur le terrain pour voir si l'argent a été efficacement utilisé pour cette activité-là. Celui-là, c'est un auditeur interne. Mmh. Bon, un auditeur interne aussi peut être quelqu'un qui vient de la part du bailleur de fonds. Pendant que vous exécutez le projet, il vient, il regarde, il vous aide à améliorer votre comptabilité. Mais après l'exécution du projet, le bailleur de fonds peut faire appel à une maison d'audit externe.
Externe.
De l'extérieur. Donc, l'auditeur qui arrive ne fait pas partie de votre ONG, ne fait pas partie non plus du bailleur de fonds. Il est externe, il est indépendant.
Indépendant, oui.
Il vient, il regarde et il émet son opinion.
Alors, il établit son rapport.
Il établit son rapport. Vous avez géré autant d'argent. Est-ce que c'est bien géré? Il regarde dans vos documents de comptabilité. En fait, la comptabilité, c'est tout un voyage. Il regarde si les normes de comptabilité sont respectées. Il donne l'opinion. À ce moment-là, si vous avez bien géré, on vous donne ce qu'on appelle le certificat d'audit. Et à l'avenir, avec votre expérience, si vous ajoutez ce certificat d'audit, on vous fait confiance. On dit, voilà, nous avons déjà géré, par exemple, 500 000 dollars, 300 000 dollars, nous avons été audités par telle maison externe, voici le certificat, vous augmentez votre crédibilité. En dehors de cela, la qualité de votre personnel, qui fait partie de votre ONG? Qui vous engage? Vous gérez...
Est-ce que c'est votre cousin? Est-ce que c'est une tante?
Exactement.
Ou des gens qui,
voilà.
qui
alors,
maîtrisent absolument rien?
Voilà. Si vous êtes dans le domaine de l'éducation,
oui.
ben, prenez des personnes qualifiées.
Des spécialistes dans,
Dans le domaine de l'éducation.
Oui.
Et faites-vous contrôler par notre structure éducative que nous avons dans les pays. Qu'on vous suive, que les normes soient respectées. Donc voilà tout ce qu'on peut ajouter. Vous avez le fond, la qualité de votre personnel, la gestion, la comptabilité, tout ça sont des éléments qui vous donnent une très grande expérience et qui vous valorisent auprès de
voilà.
Manière de France.
Un premier auditeur en ligne, Serge Makaka de Kinshasa. Bonjour Serge.
Oui, bonjour. Merci beaucoup vraiment, monsieur le journaliste. Nous sommes vraiment beaucoup intéressés avec ce sujet ici.
Oui.
Nous faisons partie de l'association des maraîchers et éleveurs de la commune de Rancelle. Alors, si je sais bien dire cela, pourquoi? Parce que nous, les marchés de la commune de Lancelin, nous faisons partie au moins à 40% de ceux qui nourrissent la commune de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi notre ONG ou notre association est encore jeune. C'est pourquoi je veux que l'invité puisse nous donner des orientations, comment faire évoluer cette ONG et puis comment nous pouvons parvenir à avoir des financements, des dons, du matériel, tout qu'on sort. Parce que nous sommes encore jeunes. Et la première procédure, je l'ai bien
Oui, Serge, vous êtes jeune. Serge.
Documents, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour que notre ONG puisse prospérer?
Serge, votre structure existe depuis combien de temps?
Nous sommes au début. Nous sommes beaucoup vraiment dans la commune de Lancelle.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé avec vos propres fonds? Avec nos propres fonds,
nous avons déjà commencé à faire. Nous avons notre petite caisse, bien que cela n'a pas encore réalisé quelque chose.
D'accord, merci. Docteur Kapika va répondre tout à l'heure. Ogui Bendel, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à l'invité. Bon début de semaine à toutes et à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Quelle est votre question?
J'ai une question, Jody, à poser à notre invité, parce que j'ai constaté d'ailleurs avec amertume, dans ma contrée, là je parle principalement dans le territoire de Gungwe, secteur Lozo, il y avait un monsieur qui avait organisé à élaborer ou arranger les tronçons de la route qui quitte Gungu pour le pont Luangé. Après avoir fait un mois, bon, ces travailleurs n'avaient aucun salaire. Alors on commençait à se lamenter et jusqu'en ce moment, le travail était inachevé. Alors, monsieur aussi avait disparu. Lorsqu'on lui demandait, il disait que l'ONG était non financée. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question à l'invité. Quelles sont les procédures avant d'ouvrir une organisation non gouvernementale? Il faut faire quoi et quelles sont les procédures ou les formulaires à remplir pour que cela puisse être très, très bien organisé, très bien financé? C'était là ma seule question aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Bien, Alphonse Boudril nous appelle de Ngokolo en province orientale. Alphonse, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux invités. J'ai quelques quatre petites préoccupations.
Oui.
La première, donc pourquoi ce sont en grande partie les ONG humanitaires ou les ONG de l'Église qui reçoivent beaucoup de financements? La deuxième question est comment nos invités ont pu attirer l'attention des bailleurs de fonds depuis qu'ils veulent créer leur ONG? Troisième question, quels sont les premiers moyens qui une ONG peut servir pour son financement ou son autofinancement? La dernière question, il y a des ONG qui n'ont que deux ou trois personnes, par exemple, qui rédigent des projets au nom de la communauté, où il faut, par exemple, ils réunissent les paysans, ils vont les convaincre, pour leur dire, voilà, donnez-nous les chiffres de vos caféiers, de vos bananiers, et ainsi de suite. Maintenant, ils vont rédiger sa forme de projet. Alors, comment, maintenant, la question, c'est de savoir comment les bailleurs peuvent savoir ces produits-là, par exemple, ces bananiers ou ces cafés ou ces arachides, n'appartiennent pas à ceux-là qui ont rédigé le projet. Voilà les questions que j'ai.
D'accord, merci Alphonse. Bien, revenons à la première question de Serge Macaca. Il fait partie de l'association des maraîchers et éleveurs de l'Ancelé. Alors, il veut savoir comment ils peuvent accéder au financement. Docteur Capica.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que Serge devra d'abord essayer de faire la différence entre ce qu'on appelle initiative locale de développement et une ONG. Quand on est juste dans une contrée, dans une localité, on s'attend, on dit, bon, écoutez, nous devons produire, faire des cultures maraîchères pour notre bien-être. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est juste une initiative locale de développement qui peut effectivement devenir une ONG. Mais pour devenir une ONG, il faut alors qu'il ait des membres qui adhèrent à leur initiative, qu'ils soient nombreux, qu'ils acceptent ce qu'il est en train de faire et qu'ils se structurent, qu'ils aient un conseil d'administration et qu'ils désignent un responsable de l'exécutif, celui qui va gérer tout ce qu'ils font, et qu'ils aient de l'ampleur, et après, qu'ils aillent chercher les documents, comme l'a dit notre directeur général, pour avancer. Donc, c'est pas parce qu'on a commencé juste à faire une petite initiative qu'on peut directement penser à devenir une ONG.
Il y a encore vous pensez directement au financement.
Et vous pensez directement au financement. C'est ce qu'on a dit. Oui. Il faut commencer par soi-même d'abord à faire quelque chose et avant d'y arriver.
Voilà. Docteur Freddy.
Oui, mais quand cela ne tienne, il a si bien dit, mon collègue, que même une initiative locale de développement peut obtenir un financement. J'imagine qu'il a dit qu'ils nourrissent la ville de Kinshasa, donc ils ont des cultures qu'ils produisent. Mais alors, il doit savoir où trouver des financements. Il peut commencer, par exemple, par les ministères provinciaux de l'agriculture. Il vient, il dit que nous sommes dans les banlieues de la ville de Kinshasa. Voilà ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir de vous? Les fiscs de matériel aratoire. On mènera des enquêtes. On va envoyer quelqu'un sur le terrain pour aller voir si ces gens-là sont efficaces, s'ils produisent réellement. Donc, il faut savoir où toquer avec ces initiatives là-bas, comme ils ont déjà commencé quelque chose. Et puis, il faut se structurer, comme il a dit, obtenir des documents officiels. Ce n'est pas parce que vous avez un grand champ, parce que vous avez ceci et cela, vous n'êtes que vous-même, vous, peut-être votre femme et vos enfants, on vient, on vous donne de l'argent comme ça. Non, on doit savoir avec qui on traite. Est-ce que vous existez juridiquement? Donc, voilà un peu tout ce qu'on peut donner comme assise pour que...
Voilà. Il y a Ogi de Kikwit qui dit, monsieur est venu avec son ONG pour construire, je crois, un pont entre Gungu et Luangé. Et à un moment donné, il n'y a plus d'argent, le monsieur dit pareil, les travailleurs ne sont pas payés. Alors, il veut savoir quelle garantie on peut avoir pour qu'une ONG existe et puisse bien exécuter les travaux.
C'est-à-dire qu'il pouvait, par exemple, obtenir beaucoup d'informations de ce monsieur-là. Souvent, ce sont des politiciens qui arrivent comme ça. À l'approche des élections, un politicien peut venir avec ses moyens propres pour commencer.
Mais de plus en plus, les politiciens ont des ONG, docteur Freddy.
Bon, je ne dirais pas qu'ils ont des ONG. Ils font des activités qui attirent l'attention de la population pour un but bien précis. Oui. Et aussitôt le but atteint, ils disparaissent. Mm-hmm. C'est peut-être ça. Si c'est quelqu'un qui est venu et s'il y avait réellement un besoin, ce monsieur ne devrait pas travailler seul. S'il n'avait pas beaucoup de fonds, il devait mobiliser la population locale. Parce qu'un pont, c'est de l'intérêt communautaire. Mm-hmm. Donc, il devrait y mettre la communauté locale pour construire ce pont. Et faire expliquer dès le départ aux gens que je n'ai pas beaucoup de fonds. Moi, j'apporte ceci. Vous, population, qu'est-ce que vous apportez pour que nous puissions obtenir notre pont? Alors, s'il a obtenu un financement de l'État ou de quelqu'un d'autre, on devrait aussi l'interroger pour qu'il puisse donner de plus amples informations. Vous voulez faire un pont? Vous commencez avec quoi? Vous avez des fonds? Où est-ce que vous les avez obtenus? Oui. Plutôt que de voler en vase clos soi-même et puis on disparaît. Donc voilà, il faut échanger parce que les projets, on les réalise au bénéfice de la population locale. Et le projet doit naître d'abord de la communauté. Mmh. C'est la communauté qui ressent les besoins. Vous, l'ONG, vous ne pouvez venir que pour mettre en exergue, en musique un peu, oui, les besoins de la communauté pour obtenir le financement.
D'accord. Alphonse de Ngokolo a posé la question de savoir pourquoi les ONG humanitaires ont la facilité d'avoir des fonds, docteur Augustin.
Ben, il doit, je suis d'accord avec lui, c'est une question importante, mais il doit savoir que tout ce qui est humanitaire est spectaculaire. Et les humanitaires, c'est eux qui précèdent souvent les agents de développement. Quand vous avez une calamité, on ne va pas attendre qu'on commence déjà par un projet de développement qui doit être à long terme. C'est une activité humanitaire qu'il faut mener. Mmh. Il y a des gens qui ont fui la guerre, il y a des gens qui sont victimes de volcans, il y a des gens qui sont victimes d'un accident, etc. De tout genre. D'abord, c'est des urgences qu'il faut amener. Il faut vite sauver les vies. Il faut vite stabiliser la situation. C'est alors seulement que les humanitaires vont venir. Mmh. Quant à dire que, bon, c'est souvent les agents humanitaires et les églises, moi, je pense que c'est question de crédibilité. Mmh. Question de crédibilité, si les gens sont structurés, si les gens ont beaucoup plus... ont fait preuve de l'expérience, oui. Pourquoi on recourt à eux. Donc, c'est cela. Pas une injustice.
Docteur Freddy.
Oui, il faut dire aussi que le mouvement humanitaire a pris de l'ampleur dans notre pays, oui. Suite à des troubles et des guerres que nous avons connues d'une façon permanente à long terme. Mmh. Et si vous regardez même dans les pays, c'est beaucoup plus l'Est, hein, beaucoup plus à l'Est du pays où il y a beaucoup des ONG
humanitaires.
Oui. À l'Ouest, c'est à peine. Mmh. Dans la province de l'Équateur, je dirais. Si vous allez dans la province de Bandundu, il y en a très 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 peu. Dans les provinces qui n'ont pas connu de troubles, il n'y a pas beaucoup d'ONG humanitaires qui opèrent.
Oui.
Et comme il a bien dit, dès qu'il y a une guerre qui éclate ou une calamité, bon, c'est très spectaculaire. Toutes les télévisions du monde entier vous le montrent à l'extérieur. Les donateurs sont touchés, ils donnent de l'argent et ils précisent, je donne mon argent pour qu'on aille travailler à tel endroit. Par exemple, les femmes qui sont violées actuellement.
Oui.
Mais ça effraie la chronique un peu partout dans le monde, on en parle. Ça surplante actuellement même les sida. Donc il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui donnent l'argent et qui disent que voilà, qu'on aille travailler avec de l'argent à l'est du pays, à Bukavu, parce qu'il y a des femmes violées. Mmh. Et quand celui qui apporte le fonds arrive, il doit respecter la volonté du bailleur.
Voilà.
Donc c'est pourquoi on voit que ça a beaucoup plus de l'ampleur.
De l'ampleur. Hein. Rigobert Takumunde nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, M. Daniel.
Quand vous écoutez.
Oui, en fait, j'ai des préoccupations. Je voulais dire parce que je suis le coordonnateur de l'ONG ici à Kinshasa. En fait, pour la structure, vous avez tous les documents nécessaires, mais je voulais savoir, parce qu'on devait avoir un partenaire. Si vous avez des partenaires, vous devez dire, comment je vais dire ça, vous devez avoir un interlocuteur, c'est-à-dire celui qui va vous défendre votre dossier. Alors, ma préoccupation réside au niveau, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'au niveau des financements, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va défendre votre dossier pour que vous ayez un financement? Un de deux. Si vous avez un projet, vous devez au moins donner quelque chose à quelqu'un pour que vous puissiez financer votre projet. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Parce que nous devons parler de certaines réalités dans notre pays. Même si vous avez un projet, il faut qu'il y ait quelqu'un vous donner de l'argent à cette personne-là. À ce moment-là, lui va défendre votre dossier en fait qu'il vous ait un financement. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Si je suis invité de vous expliquer si ce cas peut aussi s'arriver à notre pays.
D'accord. Merci à Rigobert de Kinshasa. Revenons d'abord à la question d'Alphonse. Il a posé 4 questions. Une autre question, il dit comment attirer l'attention des bailleurs des fonds. Docteur Freddy.
Bon, c'est comme j'ai
pour
dit.
Pour qu'on vous finance, comment attirer l'attention?
Il faut vous vendre vous-même.
Il faut se vendre.
À partir du moment où vous existez juridiquement, à partir du moment où vous avez une certaine expérience, et si vous êtes présent réellement sur terrain, dans un coin bien déterminé, à l'intérieur, vous êtes en train de travailler, mais vous devez être aux aguets, regarder tous les bailleurs de fonds qui circulent là-bas. Je donne un cas. Vous êtes, par exemple, à Lubero, par exemple, dans la province du Nord Kivu. Vous êtes opérationnel là sur terrain. On vous voit. Mais regardez s'il y a le PNUD qui arrive là-bas. Le PNUD veut financer une école. Présentez-vous. Mmh. Nous sommes présents ici depuis très longtemps. Voilà.
Il y a des appels d'offres.
Oui. Vous qui êtes à Lubero, si le PNUD veut construire là-bas une école, vous avez beaucoup plus d'avantages qu'un ONG qui viendrait de Goma, de Bukavu, de Kinshasa, qui va répondre à l'appel d'offres. Donc voilà, soyez efficace, essayez de vous vendre vous-même à partir de votre expérience, à partir de votre organisation.
D'accord.
C'est un point capital.
D'accord. Docteur Augustin.
Oui, et au niveau de l'intérieur aussi, dans les structures de l'État, il y a des services qui existent et qui prennent contact attaque avec les bailleurs qui arrivent. Il y a par exemple les services de développement rural dans chaque province, dans chaque territoire, qui généralement sont en contact avec ceux qui arrivent. Et ils peuvent proposer. Mmh. Si vous êtes connu là-bas, ils disent, bon voilà, vous venez, mais nous avons déjà des compétences sur terrain. Il y a une ONG qui réalise bien déjà des travaux ici. Ils ont de l'expérience. Est-ce que vous ne pouvez pas le prendre? Voilà comment
on peut... Docteur Augustin, on dit souvent aussi qu'il faut faire partie d'une plateforme pour espérer obtenir des financements.
Oui, mais dans le cadre humanitaire, c'est beaucoup plus une intervention directe avec celui qui finance. Parce que, d'autant plus que ce sont des actions urgentes. Hein, ça va trop vite, si vous êtes structuré en plateforme. Généralement, dans le cadre humanitaire, en plateforme, c'est beaucoup plus pour le développement. Vous êtes en plateforme, vous pouvez aller lentement. Mais dans le cadre humanitaire, il faut beaucoup plus se faire vendre soi-même, comme l'a dit notre directeur.
D'accord. Une autre question, il dit... Alphonse nous dit, trois personnes arrivent dans un village, ils demandent aux villageois, qu'est-ce que parlez-nous de vos champs, des cafés, des bananes, tout ça, et ils rédigent le projet au nom des villageois, ils vont chercher des fonds. Alors comment le bailleur des fonds peut vérifier tout cela pour savoir que ces projets, ça vient d'eux-mêmes ou bien ils sont allés tromper les gens au village, docteur Freddy.
Qu'il puisse avoir ces apaisements, les vrais bailleurs de fonds qui sont sérieux ne financent pas comme ça. Ils ne peuvent pas s'asseoir ici à Kinshasa. Vous venez avec votre projet bien rédigé en lisant simplement ce projet qu'on vous donne le fonds. Non, jamais, ça ne se fait pas comme ça. Mm-hmm. Ils doivent aller sur le terrain. Ils doivent réellement voir. C'est comme j'ai dit, le projet, c'est l'émanation d'un besoin ressenti par une communauté organisée et bien déterminée. Vous, l'ONG, vous venez simplement pour aider, pour mettre en application, parce que la population locale peut-être n'a pas l'expérience de gestion, mais c'est leur projet, c'est à eux d'exécuter leur projet. Donc, s'il y a des gens qui viennent, qui prennent vos informations comme ça...
Pour aller trouver de l'argent.
Soyez alerte, vous leur dites pourquoi vous prenez nos informations, pour quel but.
Pour quel but
bon, vous pouvez vous mettre ensemble, s'ils sont clairs, ils veulent vraiment vous aider. Faites partie de cette association et recherchez le fonds ensemble. En ce moment-là, ça va bien aboutir.
D'accord. Albert Mukuna, vous êtes à Kananga, bonjour.
Monsieur, nous, on vous appelle Léopard. On s'étonne ici à Tana.
Oui,
la construction d'un foyer social au camp Bobozo.
Oui.
En dehors des cases remis et des bosses aux maçons, qui sont sans salaire depuis le mois de février 2014. Au passage du responsable de l'Union européenne qui finance les travaux, un certain mardi ici à Kananga, $15 a été remis à chaque travailleur. Plusieurs ont déserté les travaux. Je me demande pourquoi ces zones GD, malgré le non-finissage du contrat, reçoivent toujours le financement. Peut-on parler de l'émission de la politique dans la gestion de la chose publique? C'est ça ma question à nos amis co-débatteurs.
Vous dites qu'il y a des ONG qui reçoivent des financements alors qu'ils ne sont pas reconnus, c'est ça?
Non, les travaux inachevés.
Oui, vous dites qu'il y a des ONG qui reçoivent des financements alors qu'elles ne terminent jamais les projets, les travaux. Voilà, et peut-être qu'il ne nous entend plus, mais au moins on a retenu l'essentiel de sa question. Docteur Augustin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon,
d'abord, revenons à Rigobert de Kinshasa, qui dit qu'aujourd'hui, pour avoir les financements, il faut avoir quelqu'un dans la structure, vous lui donnez des pots de vin pour qu'il fasse le suivi pour vous.
Non, je ne veux pas m'engager dans ce débat. Je ne pense pas que pour financer un projet, il faut avoir beaucoup d'interlocuteurs. Il faut soi-même, d'abord, il est à Kinshasa. Je ne sais pas quel genre de projet, peut-être c'est à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, c'est visible. Il faut qu'on voit ce qu'il a déjà fait. Et s'il s'est confirmé par le travail, moi, je vois pas pourquoi il y aurait des intermédiaires. On va les chercher n'importe où il sera. Et on va dire, mais nous, on a vu une réalisation là-bas, c'est pour vous. Et voilà, nous venons vous voir. Est-ce
mais
que vous
d'après Rigobert, c'est des réalités aujourd'hui dans certaines structure. Vous voulez être financé, il faut aller aussi financer quelqu'un pour qu'à son tour, qu'il défende votre dossier.
Bon, c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas d'où ça s'est fait, dans quel ciel, mais du moins dans les humanitaires, avec le système des Nations Unies,
ça n'existe pas.
Bon, je ne sais pas dans quel contexte, mais ce que je conseillerais, c'est que réellement, s'il est efficace, qu'il aille directement traiter avec le bailleur lui-même. Pourquoi il doit se faire des intermédiaires, je ne sais pas.
Voilà, docteur Fadi.
Oui, un bailleur de fonds sérieux ne va jamais vous demander de fonds comme ça. Bon, je sais que peut-être dans certains marchés de l'État, il y a de ce qu'on appelle opération retour ou quoi là. Mm-hmm. Mais il faut être extrêmement malin. N'acceptez pas cela. Parce que si vous rédigez votre projet, vous faites un budget très, 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 très bien détaillé. Mmh. Vous dites telle ligne, c'est pour le personnel, ceci pour telle activité, et vous arrivez à un montant définitif. J'ai dit, par exemple, 100 000 dollars pour reconstruire, par exemple, une école primaire de 6 salles de classe avec bureau de direction, toilettes, douche, quoi là. Vous avez bien défini. Mais si on vous demande de retourner 30, 20 000 dollars, vous n'allez pas terminer vos activités. Mmh. Et là, vous vous créez
des problèmes.
Votre ONG ne sera plus qualifiée. On dira que ce n'est pas une ONG sérieuse. Elle a commencé une activité qui n'a pas été finie. Mmh. Donc,
vous avez d'ailleurs suivi Albert Descalins qui dit qu'il y a des ONG qui ne terminent pas les travaux, mais ils reçoivent toujours des financements. Comment
si on vous propose
cela?
Une chose pareille, n'acceptez pas. Le vrai bailleur de fonds, voilà ce qu'ils font. Le budget final est, par exemple, de 100 000 dollars. Ils vous disent que nous vous donnerons cela, par exemple, en 3 ou 4 tranches. Si c'est en 4 tranches, c'est peut-être ils vont commencer par 25 000 dollars, 25 et puis ils descendent. La première tranche, ils vous diront pour la construction d'une école, c'est la fondation. Vous êtes en train de construire la fondation. Dès que vous terminez la fondation, oui, ils viennent vérifier. La fondation est bien faite, elle est conforme aux normes de la construction. Ils agréent, ils acceptent et puis ils vous permettent de caisser la deuxième tranche de fonds. Mmh. Et pendant que vous travaillez, on vous surveille. C'est comme ça qu'on travaille, du moins si vous avez affaire à des bailleurs de fonds qui sont très sérieux. On ne peut pas vous donner toute l'enveloppe de 100 000
directement, on ne peut jamais
ça
le faire.
Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Et refusez de retourner de l'argent parce que vous allez vous coincer vous-même, vous allez vous créer un grand problème. Vous pouvez même faire la prison.
D'accord. Alors, pour terminer, docteur Augustin, je crois qu'il est important pour les responsables d'une ONG, lorsqu'on exécute un projet, il faut toujours garder les pièces justificatives.
Tout à fait. On l'a dit, il faut, parce qu'il y a l'audit, qu'il faut demander ou qui est prévu dans le projet que vous devez recevoir. Donc, les pièces justificatives des procédures suivies, si vous n'avez pas vous-même vos procédures en interne, vous prenez les procédures peut-être de votre bailleur de fonds, mais vous devez suivre certaines procédures et garder tout à fait toutes les pièces justificatives.
Évitez de fabriquer des factures, de falsifier les documents, tout ça.
Non. Vraiment, toutes les procédures, s'il faut publier dans un journal, s'il faut faire ceci, des appels d'offres, toutes les procédures doivent être suivies.
D'accord. Merci beaucoup à Dr. Kapika Augustin, chef de projet à ADELS. Et merci à Dr. Freddy Mbakata, qui est le directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. À la prochaine.
Merci. Oh, Capi.